Mon train va pas tarder, là.
Un instant, s'il te plaît.
Pardon ? Enfin, qui me...
J'ai une proposition à te faire.
Ok, génial. Maintenant, j'entends les chats parler. Il faut vraiment que j'en finisse avec cette enquête.
Tu as raison, je peux m'adresser à toi. Pour être précis, il s'agit de télépathie. Et enfin, je ne suis pas vraiment un chat. Même si te concernant, c'est ce à quoi je ressemble le plus.
Qu'est-ce que c'est que ce délire ?
Veux-tu écouter ma proposition ?
Alors, non. Non. Vu que, primo, j'ai un train à prendre et il va pas tarder. Et deuxio, les chats ne parlent pas. Les chats ne parlent pas. Les chats ne parlent pas. Allez, salut.
Cela concerne le club des chatons.
Le club des chatons ?
Précisément. Je peux te donner toutes les réponses à son sujet. Tout ce que tu as toujours voulu savoir, dès maintenant, sans avoir à poursuivre cette fastidieuse enquête. Qu'en dis-tu ?
Admettons que les chats puissent tenir une conversation intelligible. Admettons que tu disposes de toutes ces informations que je recherche. Pourquoi me les livrerais-tu aussi facilement ? C'est quoi ton prix ?
Le Shinkansen Kodama à destination de Shin-Osaka va entrer à quai. Aucun retard n'a été constaté.
Mon train arrive. Un conseil, dépêche-toi si tu prévois de me répondre.
Rien de bien sorcier en réalité. Suis-moi et rejoins-nous au club des chatons. Tu sauras tout, et pas seulement sur le club. Tu accéderas à un savoir insoupçonné.
Ne te méprends pas, Hello Kitty. Si je cherche à vous comprendre, c'est uniquement pour mieux vous détruire. J'approche du but et ça te fait flipper, Matou.
Fort bien. Encore une chose. La voie que tu empruntes ne mène qu'à ta propre destruction, et non la nôtre. Je me permets ce petit avertissement car nous t'observons depuis longtemps. Tu devrais prendre ceci en considération avant d'arrêter ta décision.
Ma décision est arrêtée, et mon train est sur le départ. Salut.
Quel dommage. Enfin, ça ne fait que retarder l'inévitable. À bientôt.
Le samouraï et la soubrette. Épisode 13. Puella Magi Madoka Magica.
Bienvenue dans l'épisode 13 du podcast Le Samouraï à la soubrette, donc l'émission où on vous parle ou deux colocs vous parlent d'animation japonaise et plus si affinité. Aujourd'hui, on vous parle de Puella quoi déjà ?
Puella Magi Madoka Magica.
Voilà, qu'on résumera par Madoka, si ça vous dérange pas, monsieur Jean.
Moi, je dirais Madoka Magica quand même, je suis un tout petit peu moins feignant que toi.
Oui, vous êtes un puriste. Vous êtes un puriste. Donc, c'est une série d'animation hein, qui a été diffusée au Japon à partir de janvier 2011. Une série de 12 épisodes. Qui a été donc faite et produite par le studio d'animation Shaft. Est-ce que tu peux nous résumer le synopsis de la série ?
Oui, c'est un exercice difficile, mais on va essayer de s'y plier. Alors, Madoka Magica nous conte l'histoire, donc bien sûr, de Madoka, qui est le prénom du personnage principal, et aussi de quelques-unes de ses amies, qui vont découvrir l'existence de sortes de créatures à chasser qui sont les sorcières et qui se font chasser par les Puella Magi qui sont des sortes de magiciennes qui sont des magical girls hein, totalement pour en devenir il leur suffit de passer un contrat avec un étrange chat on dirait un chat qui leur offre un vœu à exaucer qui peut être quasi miraculeux en échange d'une vie de combat.
C'est ça, donc voilà, au vu de la série, donc c'est une série avec une grosse importance au niveau du scénario, donc comme d'habitude, on va s'évertuer à ne pas spoiler, ou en tout cas être très prudent par rapport à ce qu'on va pouvoir vous raconter aujourd'hui.
Voilà, ce qui va énormément nous limiter dans certaines des thématiques qu'on va vouloir aborder, et on va rester volontairement évasif. Auquel cas on vous précisera pourquoi on ne peut pas vous en dire plus.
Voilà, et si jamais vous voulez en entendre un peu plus de notre part, il est possible qu'on reparle de façon plus explicite de Madoka dans un futur épisode.
Oui.
Jean, comment tu as découvert cette série ?
Alors, Madoka Magica, c'est un des animés dont on m'a parlé, alors entre autres sur Canard Passé, évidemment, mais aussi simplement entre nous, parce que toi, je sais que tu appréciais bien la série déjà à l'époque et tu m'en avais parlé à plusieurs reprises. C'est un animé que j'avais commencé à regarder et que j'avais mis en pause. J'avais fait une longue pause parce que je l'avais trouvé un petit peu avare en informations, un peu long à me développer, à me donner un peu quelque chose à manger. Même si je voyais bien, de par certaines situations ou certains personnages, qu'il y avait quelque chose derrière. Peut-être qu'au fond de moi, j'avais peur qu'il me fasse... bon, c'est peut-être la première fois, la dernière fois que j'en parle, qu'il me fasse une Évangélion. Donc, animé que j'avais regardé en me disant « Non, mais après, ce sera bien. C'est sûr, il va y avoir des trucs, tout va changer, ma perception va changer. » Spoiler, pour Evangelion c'était pas le cas, et pour Madoka ça l'a été, parce que après cette longue pause j'ai fini par reprendre, en ayant de nouveau un moment où j'avais un peu de temps libre pour mes visionnages.
Moi, ouais, je t'ai crié dessus.
aidez-moi s'il vous plaît. Et du coup, bon, je m'étais arrêté j'avais dû m'arrêter vers l'épisode 7 sur les 12, hein, donc j'avais bien avancé, j'avais fait une longue pause, j'avais pas drop, j'avais fait une longue pause et j'ai repris relativement récemment, et j'ai bien apprécié cette deuxième partie de visionnage, et j'ai du coup refait un visionnage complet avant de faire cet épisode, et donc je peux dire que ça valait la peine, c'était pas du temps perdu. Et du coup, toi, Xavier, dans quelles conditions tu as découvert cet animé?
Moi, ça fait partie de mon rattrapage de ma période perdue des animés, ce qu'on appelle...
Le même panier que Toradora.
C'est ça, la fameuse période qui, à peu près entre 2005 et 2015, en gros, où toute une période où j'ai absolument loupé tous les animés. Ce qui est donc dans le... Et quand tu as parlé de Toradora, mais c'est pareil avec Death Note, c'est pareil avec pas mal d'autres choses. À cette époque-là, très honnêtement, tout ce que je regardais de cette époque-là, ça doit être les Naruto, les Fairy Tail, ce genre de choses, quoi.
Ok.
Et donc, j'ai vu la série, on me l'avait... moi, je n'aime pas les séries de Magical Girl, mais on m'en avait... On en avait parlé un peu comme une série dont il fallait, dont le visionnage était notamment intéressant, vu que ça changeait pas mal de ce que je connaissais, les Sakura, les Sailor Moon, etc. Et ça fait partie des deux qu'on m'a conseillé avec Flip Flappers.
Hein. Tiens donc, mais qui a pu te conseiller Flip Flappers?
Écoute, quelqu'un dont je préfère taire l'identité. Voilà, c'est quelqu'un qui porte des talents. Donc c'est... Et en fait, on m'a dit, regarde ça, ça change beaucoup, et attention, c'est très sombre. Et effectivement, on m'a pas menti sur
Non, mais t'avais réglé ton écran sur 10% de luminosité.
Ouais, c'est pour ça. Il y a des tonalités beaucoup moins colorées que ce à quoi je m'attendais. D'accord. Effectivement.
Et bah alors du coup, c'est bien, on va attaquer sur la partie visuelle, du coup, vu qu'on parle. Donc non, la série n'est pas à 10% de luminosité, hein. il parlait de thématique. Visuellement parlant, par contre, c'est vrai qu'elle est un petit peu à part. Tu parlais de Moe, c'est vrai que le style des visages sort un petit peu des normes. Je dirais aussi qu'en termes de couleurs, c'est assez coloré avec beaucoup d'aplats de couleurs. Bon, c'est quelque chose qu'on peut quand même retrouver dans pas mal d'animés. Moi, en termes d'animation, j'ai trouvé aussi qu'il y avait certaines scènes de combat, notamment qui font plaisir à voir, qui sont bien sympas. Et en termes, non pas de technique, mais d'artistique, alors j'ai trouvé que finalement, au niveau mise en scène, il n'y a pas grand chose qui m'a choqué. En tout cas, j'ai rien relevé. Par contre, en termes de composition des plans, autre chose à laquelle je suis également sensible, là, il y avait quand même pas mal de trucs intéressants. Et comme j'y suis sensible, du coup, je l'ai relevé.
Je suis d'accord avec toi sur toute la partie graphisme, notamment ceux des personnages. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est les labyrinthes de sorcières, donc les poulets, les Magi, les Madoka et ses copines. Voilà.
Tu peux dire les Puella Magi, c'est pas si dur. Puella Magi.
Madoka et ses copines sont.
Mon Dieu.
Sont opposés donc à des sorcières et doivent se battre contre ces sorcières dans des labyrinthes créés par ces sorcières. Et pour moi, c'est le grand intérêt visuel de la série, c'est le rendu visuel de ces labyrinthes. Avec pas mal de collages et de découpages. Avec pas mal, avec des différences de plans, beaucoup de parallaxe qui est faite. Le parallaxe, c'est qu'on va faire bouger une partie de décor pas à la même vitesse que d'autres parties de décor,
Mais... Pour les gamers qui nous écoutent, c'est du scrolling.
Voilà, c'est ça. Mais surtout pas forcément de horizontal ou vertical, mais vraiment dans tous les sens.
Multidirectionnel.
Ah ouais, c'est vraiment la fête et c'est un côté très déroutant et vraiment très intéressant. Avec en plus des techniques d'animation différentes, parce que en plus de l'animation traditionnelle qu'on a pour les personnages principaux, on a aussi des personnages animés façon marionnette, des fois limite du stop motion. C'est vraiment très bien pensé et vraiment innovant graphiquement parlant. Et pour une série de 2011, pour moi, ça a vraiment pas vieilli. Ça donne une identité visuelle qui lui est propre et vraiment marquante.
C'est marrant que tu aies mentionné Flip Flappers tout à l'heure, parce que je trouve aussi que Flip Flappers était créatif aussi dans son équivalent des sorcières, en fait. Il y avait des phases aussi comme ça, avec des trucs un peu... des labyrinthes un peu psychédéliques.
Oui, c'est vrai, oui. Les épisodes les plus intéressants de Flip Flappers, c'est ceux où ils sont dans des mondes très particuliers et très créatifs. Ouais. Après, oui, Madoka, je pense, a plus de choses à raconter que Flip Flappers. Ouais.
Du coup, on va passer sur la partie audio. Donc ça, c'est quelque chose. J'avais pas spécialement d'attente là-dessus parce qu'on m'avait pas vraiment vendu Madoka pour ces points-là. Moi, j'ai eu une très belle expérience et une très belle surprise avec cette OST. C'est un bel OST avec beaucoup d'aspects qui forcément me touchent et me parlent. On a pas mal de présence de piano. On a beaucoup de chœur dans des chansons un petit peu épiques. Certaines sonorités m'ont rappelé d'un côté Nier Automata. Ce qui est quand même un sacré compliment. Et d'un autre côté, ça m'a pas mal fait penser aussi à SAO, pour tout ce qui est un peu cœur épique de combat, ce genre de choses. En sachant que, du coup, la compositrice a fait certaines musiques de SAO, entre autres, et aussi du Pandora Hearts, qui avait un petit peu le même type de sonorité. J'ai quelques pistes coup de cœur, notamment Puella Insomnio et toutes les autres pistes qui utilisent le même leitmotiv, qui sont vraiment, vraiment sympas. Côté générique, comme tu l'avais souligné, on a 4, c'est ça, endings différents.
Ouais, c'est assez notable pour une série qui n'a que 12 épisodes.
Voilà, pour un opening par contre,
oui,
qui
voilà.
Lui est inchangé.
Après, je triche un peu hein, parce que dans les 4 endings,
oui,
je compte,
c'est
une reprise de l'opening,
ouais,
effectivement.
Ouais. Et ils étaient également sympas et tous différents, même si je pense que je garde ma préférence pour ce qui est le vrai ending entre guillemets qui sort un peu du lot.
C'est celui qu'on entend le plus. Quoi.
Voilà.
Quoi, celui des, si je dis pas de bêtises, des épisodes entre 3 et 7. Ouais.
Ouais. Voilà. Du coup, toi, niveau musique, qu'est-ce que tu as à nous dire?
J'ai pas énormément de choses. L'OST m'a moins marqué que toi. Après, de toute façon, on commence à se connaître sur les OST. Tu vois, je vois les choses qui vont plus... intéressé que moi là et effectivement l'OST est très propre hein, avec notamment voilà des chœurs des percus solennels, des cordes, du piano, donc il y a tout pour du tarot en gros. Il y a tout pour Jean.
Putain, ce vieux slogan pourri, tout pour du tarot quoi.
mais de façon générale en fait les morceaux sont très adaptés à ce que la série raconte hein, que ce soit par les scènes d'action au cas des charges classiques de Magical Girl avec voilà les combats, les transformations, les parties plus mystérieuses. Et elle reste cohérente quand elle va aller dans des thématiques qui vont être moins orientées Magical Girl, mais ça reste quand même dans les mêmes sonorités que les autres musiques. Donc c'est pour ça que j'ai pas été spécialement marqué par la musique, même si c'est de la bonne facture.
Ok. Du coup, tiens, passons à la partie narration. C'est marrant ce que tu parlais de qu'on commence à se connaître et à voir un peu les thématiques qui nous plaisent. Bah, je pense que ça va être pareil pour la narration. Encore un truc auquel je suis assez sensible, la construction est plus complexe qu'il n'y paraît dans Madoka Magica. Donc sans surprise, j'ai été sensible à ça. Ça va être impossible à détailler sans spoiler majeur, donc voilà, je vais juste effleurer la surface. On a quand même une construction plus complexe qu'au premier coup d'œil. Une certaine non-linéarité de la narration selon certains aspects. Ça, vous vous en rendrez très vite compte, hein, dès le premier épisode, vous aurez de quoi vous mettre ça sous la dent.
Et après, sera géré par indice, on va dire.
Voilà. Il y a pas mal de détails, justement, qu'on va repérer probablement qu'à partir du second visionnage. Donc, ça a été mon cas et j'ai pu m'en rendre compte. Et d'ailleurs, je dois dire à ce sujet que c'était du coup très gratifiant, ce second visionnage, en ayant toutes les clés. Je parlais tout à l'heure de la peur que l'anime me fasse une Évangélion et me donne pas à manger. C'est pas du tout le cas. Et du coup, ça a permis donc non seulement de donner un sens à tout ce que j'avais regardé avant, mais en plus à me permettre de revoir avec plaisir en détectant toutes les petits détails disséminés, que ce soit des détails très importants pour l'intrigue ou pas. Et finalement, un peu comme un Your Name, quoi. Et ça, franchement, c'est cool.
Je ne m'attendais pas à la comparaison à Your Name là-dessus, notamment sur le côté revisionnage, mais ok. Effectivement, c'est une série avec de nombreux rebondissements, mais pas uniquement. C'est surtout les changements de ton assez radicaux qui m'ont marqué, hein, et qui vont toujours avec dans la direction de plus de noirceur, hein, clairement. La série respecte les codes de ce qui est Magical Girl, hein, donc avec les transformations, les costumes avec beaucoup de dentelles, la bestiole kawaii qui donne les pouvoirs, l'équipe d'héroïnes, les pouvoirs et tout le tintouin. Mais elle transgresse assez littéralement.
Vous voulez dire déconstruire?
Si tu veux, on en parlera. Mais je pense pas que ce soit une déconstruction, vu que ça reste une série de Magical Girl avec tous les éléments de Magical Girl possibles. Je pense que pour le coup, une série comme Flip Flapper, c'est beaucoup plus dans la déconstruction que Magical, pour moi. Mais ce que je voulais dire, c'est au lieu de montrer du coup les aspects qu'on connaît tous via, je parlais de Sakura, de Sailor Moon et tout, on va vouloir amener à des genres assez inexplorés pour tout ce qui est Magical Girl, voire carrément sur de l'horreur psychologique.
Mais c'est pas mal.
Ça donne une série intéressante.
Je veux du Perfect Blue dans mon Sakura chasseuse de cartes.
Ben, c'est un bon résumé de certaines parties de la série.
Voilà, ouais. C'est pour ça que je le dis. j'ai pensé aussi que ce serait un bon résumé. Ok, bah du coup, ça fait une bonne transition pour parler des thématiques.
Ouais.
Grosso modo, c'est quand même, comme tu l'as dit, hein, c'est en dehors de tous les éléments classiques de Magical Girl. C'est vrai que moi, je les note même pas parce que c'est tellement acquis en fait que. Peut-être parce que j'en ai vu un peu plus que toi, je sais pas.
En gros, moi, comme j'aime pas, je les vois vite.
Ouais, voilà.
Les trucs qui me gonflent.
Tu les soulignes, quoi.
Que je le vois,
du
oui.
coup, en dehors de tout le truc classique, c'est vrai que c'est dans les thématiques, c'est assez serious business. Ça va être encore une fois difficile à détailler sans faire des spoilers majeurs, donc on va pas le faire, mais grosso modo, tout le concept des sorcières et de leurs origines, tout le concept du rôle de l'énergie et des émotions, des sentiments dans l'animé, etc. Et donc, tout ce qu'il y a autour, donc qui, quand, comment, pourquoi, les sources, les origines, les conséquences. Je crois qu'ils ont, enfin, rien n'a été épargné, en fait. Ils ont vraiment été au bout de la démarche, c'est sympa. Moi, je parlais de réinventer l'animé de Magical Girl. Toi, tu parlais du coup de transgression. Et du coup, ce que j'ai apprécié, c'était ce qu'ils ont. En fait, ils ont mis en opposition, ils ont conservé tous les éléments, comme tu l'as dit, et ils les ont mis en opposition avec d'autres trucs moins courants et moins rigolos au premier abord. Donc, en gros, mettre en opposition l'innocence, la mignonnerie, les tenues roses avec un danger immédiat, une violence cruelle et même certaines ironies, j'ai trouvé dans certains passages ou certains concept.
Ouais, comme je disais, la série, elle retourne magistralement les codes de Magical Girl, hein, mais effectivement, il y a pas mal de choses qui sont abordées sur lesquelles on n'a pas l'habitude. Mais tout en restant une série qui respecte tous les codes, on a quand même l'évocation de la souffrance derrière une existence faite de combat. Le renoncement, la difficulté du renoncement à une vie ordinaire, la notion de sacrifice de façon globale et générale, et même on a une interrogation sur les motivations des fameuses bestioles qui accordent les pouvoirs des Magical Girl. Il y a quelque chose aussi qui m'a pas mal marqué. Je ne sais pas si c'est en thématique, mais en tout cas c'est en termes de symbolisme. On a beaucoup de choses qui reprend d'un côté la partie philosophie-religion et de l'autre des symboles très orientés sur la psychologie, la psychiatrie. Ce que je veux dire, c'est le symbolisme religieux, il est indéniable, notamment dans les dénominations qui sont attribuées à Madoka ou Mura, qui sont des personnages dont on va parler un peu plus tard, mais il y a carrément des parallèles à faire entre les personnages et des figures religieuses très, très, très connues, ou même des concepts religieux généraux qui sont repris dans plusieurs religions monothéistes et polythéistes. Et il y a aussi toute l'imagerie qui est donnée dans les labyrinthes de sorcières, hein, qui est criante avec des personnages qui apparaissent dans des tests de Rorschach. On va avoir des salles infinies, on va avoir des paradoxes de perspective, des motifs qui reviennent, et voir les formes des sorcières elles-mêmes avec beaucoup de choses qui vont rappeler des théories et des méthodes psychiatriques.
Ouais, et puis aussi des motifs ou des paradoxes notamment de perspective.
Alors tu m'as pas écouté, mais je l'ai dit.
Ouais. Si je l'ai dit, j'avais zappé. Parce qu'on en parlait dans la partie créative.
Non, mais tu m'écoutes plus, je le sais. Non, mais c'est pas grave. Non, mais je savais.
Je crois que t'as plus de salive que moi de neurones, en fait.
C'est chaud.
Du coup, tu nous as teasé la partie sur les personnages, là. Donc, je réclame la partie sur les personnages.
Je t'en prie.
On va pas aborder tous les personnages parce qu'on n'a pas forcément des trucs à dire sur tous. On va se contenter de quelques-uns, notamment de Sayaka, parce qu'on avait des avis un petit peu qui différaient pas mal. Donc, ça fait un peu de variété.
Pour résumer, juste Sayaka, c'est la meilleure amie du personnage principal.
Oui, parmi le groupe d'amis, c'est la meilleure pote de Madoka. Ouais.
Voilà.
Donc Sayaka, elle a beaucoup de choses assez intéressantes dans son développement, et malgré tout, moi j'ai trouvé que ça restait quand même le personnage que je qualifie de la relou de bout en bout. Je n'accuse pas du tout la série de pas l'avoir développée ou de pas avoir mis les formes, parce que c'est pas du tout le cas. Il y a beaucoup de choses très intéressantes derrière, mais malgré tout, tout en sachant ça, j'arrive pas à l'apprécier.
Bah en fait, c'est le personnage auquel je me suis le plus attaché, parce que c'est un personnage qui en fait qui est foncièrement bon et qui voit globalement le monde s'écrouler petit à petit autour d'elle, et j'ai bien aimé de voir entre guillemets comment elle essayait de s'en sortir entre ses aspirations, ses volontés et ses contradictions, et c'est vrai que ça a été une sorte de fil conducteur d'une bonne moitié de la série, et je trouve que c'est par elle qu'on a le plus de clés pour comprendre l'essence de la série.
Ok. Du coup, parlons de l'autre personnage, Omura. Donc Omura, c'est le personnage de la nouvelle arrivante dans la classe, donc, mm-hmm. Qui ne fait pas partie du groupe d'amis de Madoka à la base, mais qui fait quand même un pas pour se rapprocher d'elle à son arrivée. Moi, le personnage d'Omura m'a bien plu. Elle est assez mystérieuse. On voit malgré tout qu'elle a l'air d'avoir du bagage, quoi, des connaissances qu'ont pas forcément les autres personnages. Elle a du vécu, et on sous-entend même qu'elle débarque de très loin. Quand on arrive, on dit bah voilà, c'est la nouvelle arrivante, et puis hop, débrouillez-vous. Donc tout ça, moi ça m'a fait un peu tilter, en me disant justement, je parlais du fait que la série me donnait pas assez de clés. Je m'étais dit tiens, ce personnage là, lui, il sait des trucs que j'ai envie de savoir. Et malgré tout, avant d'avoir complètement vu l'animé, d'avoir tout appris sur tous les personnages, c'était quand même dès le départ en fait mon personnage préféré. Et j'ai trouvé qu'il était quand même habilement traité dans l'ensemble, parce que je trouve que c'est un peu, ils ont maintenu pas mal d'ambiguïté.
De façon pas très étonnante, c'est un personnage que moi j'ai pas beaucoup apprécié, mais d'un point de vue personnel, c'est-à-dire que c'est dans toutes les séries, il y a des personnages qu'on aime bien et des personnages qu'on aime pas.
Ouais, comme moi avec Sayaka, quoi.
C'est ça. C'est-à-dire que par contre, je pense que comme toi avec Sayaka, tu diras que c'est un personnage qui est intéressant par son cheminement. Et voilà, Omura, c'est un personnage qui est intéressant justement par son cheminement. Mais moi, si je l'aime pas, c'est à cause finalement de son état d'esprit qui est absolument extrême, et finalement le dénouement en fait me donnera raison sur le fait que c'est un état d'esprit qui peut jouer des tours à elle et à beaucoup d'autres personnes.
C'est peut-être tout con, mais c'est peut-être juste parce qu'on s'identifie plus l'un à l'une et l'autre à l'autre.
Ouais, c'est ça. Ouais. Mais après, voilà, c'est sûr, après, comme t'as raison, hein, c'est un personnage qui est mystérieux, qui semble avoir plus de clés de compréhension que les autres, mais voilà, j'ai pas envie de reparler de Toradora. je voulais pas. C'est marrant parce que tu vois, les premiers personnages dont on parle, c'est pas le personnage de Madoka qui est pourtant censé être le personnage principal.
Ouais, je me demande pourquoi.
Parce que ben, Madoka, c'est le prototype de l'héroïne positive, juste, vertueuse, mais surtout.
Ouais.
Passive,
ouais, ouais. Et elle a, indécise. Elle,
ouais,
très
c'est
très
ça.
Indécise.
C'est en fait son le fil conducteur de toute la série, c'est son indécision.
Ouais.
Et ça, je suis désolé, mais ça, on ne peut en faire que le personnage le plus relou à suivre. Quoi, c'est toute la série, c'est est-ce que je dois y aller ou est-ce que je dois pas y aller. Quoi, c'est assez gonflant. Et ça rend, on va dire, pourtant, en fait, tout. Les décisions des autres personnages
oui, tournent autour de
tourne
ça,
autour d'elle
c'est,
et tournent autour
tout
de ça.
C'est imbriqué.
Quoi.
Oui, c'est,
et voilà.
L'écriture, c'est pas parce que c'est con d'avoir un perso indécis que l'écriture derrière n'est pas brillante. Hein.
Oui,
elle,
oui.
Elle l'est. Mais effectivement, c'est du coup, on se dé. Alors, relou ou pas, je sais pas, mais en tout cas, c'est un personnage dont on peut vite se désintéresser en fait.
C'est ça. Mais en fait, je pense que ça. Ça met encore plus en avant son statut d'icône. Parce que c'est. Pas tant un personnage dont les actions sont intéressantes, c'est un personnage vers lequel on se tourne, vers qui tout le monde se tourne.
Ouais.
Que ça soit Sayaka, Mura ou tous les autres, on se tourne vers Madoka, même si techniquement on sait pas ce qu'elle fait, on sait pas ce qu'elle va faire. Tu vois ce que je veux dire ?
Ben rien, puisqu'elle est indécise. Non, mais c'est aussi simple que ça.
Tu voulais parler d'un autre personnage ou on peut parler à la,
non,
on peut passer
non,
à la
non,
magnifique VF.
Tu vas pouvoir parler à la VF, à la magnifique
okay.
VF.
Donc la VF de Madoka, la série Madoka est magnifique vu qu'elle n'existe pas. Il n'y a pas eu d'adaptation en VF de la série de 12 épisodes. Par
mais
contre,
c'est pour ça que sur par exemple sur Netflix, parce que la série est aussi disponible sur Wakanim actuellement,
oui.
Vous pourrez trouver au mieux du japonais, anglais et allemand.
Voilà, donc c'est une série que j'ai vue uniquement en VOST. Néanmoins,
ah, tu l'as pas regardé en allemand?
Non.
Okay. Bah,
de manière générale, les doublages allemands sont vraiment pas terribles. Et pourtant,
oh,
j'aime bien l'allemand.
Mais est-ce qu'ils sont pas mieux que l'anglais?
Ouais, non, mais au bout d'un moment, je veux bien pourrir mes oreilles, mais pas à ce point-là.
Ok, bon, j'arrête les blagues, j'arrête.
Il existe néanmoins une VF qui a été produite pour les deux films récapitulatifs de la série. Donc, il y a deux films qui ont été faits en 2012 pour avec deux, trois petites scènes en plus, mais pour résumer les deux fois six épisodes.
Mmh.
Et ces films-là, eux, ont été doublés en français. Avec un casting de gens plutôt habitués à la chose, hein, avec notamment Pascal Chemin.
Attention, wait for it. Vas-y, continue. J'avertis juste nos auditrices et auditeurs.
Je suis si prévisible que ça. Oui,
oui.
C'est...
Oui,
oui, oui, c'est...
Un nom qui va combe, pardon, qui tombe.
Oui, bon, ok. Donc il y a Caroline Combe dedans.
Voilà, ça y est.
Donc, voilà. Donc normalement, quand je dis il y a Caroline Combe dans une VF, je dis que c'est une des meilleures VF de tous les temps. Et là, on en est très, 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 très loin, malheureusement. Pour faire vite, la VF, elle est à peine acceptable. On a l'impression en fait qu'il y a 5 acteurs qui ont été embauchés pour et que tout le monde fait 2 ou 3 voix pour que ça fonctionne. Et ça a été fait à la va-vite et waouh, c'est pas terrible.
Oui,
quoi.
Parce que pour vous donner une idée, si on parle, alors il y a très très peu de personnages masculins dans la série, mais si on parle de personnages féminins, il y a un minimum de 5-6 personnages principaux ou bien récurrents en termes de rôles principaux, suivis d'à peu près autant de personnages en rôle secondaire. Donc déjà, de base, en fait, on s'attendait à ce qu'il y ait une dizaine ou douzaine de comédiennes. Quoi.
Ben, c'est pas compliqué.
Pas 5,
quand tu regardes, le cast japonais, il y a environ entre 20-25 noms.
Ouais, voilà.
Voilà. Et là, il y en a peut-être 5 ou 6 dans la version française.
Voilà, donc pour faire les rôles principaux, les rôles secondaires et les voix additionnelles. Quoi.
Et en plus, un choix de cast assez désastreux. vu que Madoka dont on vous a parlé qui est un personnage plutôt un peu timide, un peu indécis,
ouais.
Donc on a mis Caroline Combe dessus. Caroline Combe qui a plus une voix qui est très énergique avec beaucoup de gouailles.
C'est
avec,
Mako dans Kill la Kill quoi.
Voilà,
donc,
avec beaucoup de second degré, beaucoup de niaque. Là-dessus, elle est sous-employée mais d'une façon assez incroyable et de façon générale, j'ai l'impression que tout le monde s'est dépatouillé avec ça et c'est un peu compliqué
ouais.
Quoi.
Ouais, du coup, on peut quand même du coup jeter un petit mot. Il y a eu aussi un troisième film qui dispose aussi d'une VF,
exact.
Qui est le film 3, du coup, qui s'appelle Rebellion, et qui, donc, du coup, n'est pas un récap de la série, qui se place contre, comme une suite, en fait. Hein.
C'est une suite directe.
Donc, c'est un long métrage, au format long métrage, mais qui, est une, en termes de narration, d'histoire, est une suite directe à la série.
Voilà, quelque chose me dit d'ailleurs qu'en une après-midi, ils ont fait le doublage des trois films pour la VF.
Qui expliquerait probablement la qualité, quoi,
ouais.
la prestation. Voilà. Du coup, en termes de VF, voilà, on a tout dit. En termes de distribution, eh ben, c'est pas foufou non plus. Donc aujourd'hui, si vous voulez vous procurer des disques de Madoka Magica, que ce soit la série ou les films en Blu-ray, en France, de façon officielle, vous allez pouvoir trouver en stock le film 3, donc Rébellion, trouvable assez facilement en Blu-ray. Je sais qu'on peut trouver le coffret à très bon prix qui contient le Blu-ray, le DVD du film et le CD audio. Par contre, il n'est pas disponible en streaming à l'heure actuelle, ce film 3 Rébellion. Les films 1 et 2 ne sont pas non plus disponibles ni en Blu-ray, ni en streaming, à notre connaissance, on s'est renseigné un petit peu. Et la série en elle-même, eh ben, donc, elle est disponible sur, à l'heure actuelle, Netflix et Wakanim, sans VF, en streaming, et elle n'est pas disponible du tout en Blu-ray en France, encore une fois, donc il faut passer par de l'import de nos voisins européens.
Oui, et de toute façon, voilà, ne cherchez pas la partie VF de la série, vu qu'apparemment elle n'a jamais été produite.
Elle n'existe pas.
Ouais, que produite que pour des films qui non plus sont introuvables, donc c'est parfait.
Voilà, c'est. Alors en soi, les films 1 et 2, finalement, vu que ce sont des récaps avec quelques scènes un petit peu en plus, bah, finalement, c'est pas si grave que ça, vu que la série est accessible ou bien sur Netflix ou bien sur Wakanim. Et du coup. On a la chance, entre guillemets, que le seul film qui soit dispo en physique soit celui qui est une histoire originale.
Oui, exact. Oui.
Ça aurait été un peu plus dégoûtant d'avoir les deux films récap d'accessible facilement et pas le film 3 au final.
Ouais.
Parce qu'en mode, ah, ben, je vais revoir un récap de ce que je viens de regarder en série, mais je peux pas voir la suite. Je peux voir la suite directe. Ok. Voilà, donc si tu devais faire une conclusion pour Madoka Magica.
Une conclusion, c'est que voilà, c'est peut-être la seule série de Magical Girl que je ne fais pas que tolérer, c'est que je trouve réellement intéressante d'un point de vue artistique, d'un point de vue de ses thématiques. Ça m'a pas réconcilié, ça m'a pas poussé à aller voir d'autres séries de Magical Girl, mais clairement, je trouve que c'est un point important dans l'animation japonaise sur le traitement des Magical Girl et sur comment on peut gérer la profondeur de choses qui peuvent être de prime abord très mignons et innocents, quoi.
Ok.
Sans forcément verser sur le ultra gore, parce que ça, on savait qu'ils savent faire, quoi.
Ouais, ouais.
Mais de vraiment, vraiment très intéressant. C'est une bonne série, voilà, qui va un peu, voilà, transgresser les codes, un peu comme voilà, Watchmen le fait pour les super héros de comics, quoi.
Ok. Donc, mon côté sur Madoka Magica, je dirais que c'est la série avec laquelle j'ai eu le plus gros ratio de plaisir au second visionnage. Du coup, ça a été vraiment un vrai plaisir de la revisionner en ayant toutes les clés, en revoyant tous les indices. Du coup, je dirais que si vous ne l'avez pas vu, bah, découvrez-la, même si vous n'aimez pas les Magical Girls, parce que bon, comme tu l'as souligné, c'est pas un problème. Et si vous l'avez vu, bah, revoyez-le quand même. C'est un ordre.
Ben bah écoute, c'est là-dessus qu'on va terminer cette émission.
Lance la conclusion.
Mais oui, cette 13e déjà émission Le Samouraï et la Soubrette qu'on a consacrée à Madoka. On vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de distribution de podcasts, hein, Podcast Addict, Spotify, etc. etc. On vous dit à une prochaine.
Petite question additionnelle, du coup on peut pas mettre d'extrait VF vu que ça n'existe pas.
Alors,
Si tu rencontrais un petit chat de l'espace avec des boucles d'oreilles, est-ce que tu lui demanderais de devenir une Magical Girl en échange d'une VF pour la série?
Non, je lui demanderais juste de rencontrer Caroline Combe, évidemment.
Ah, donc tu n'échangerais pas une vie de combat contre une VF pour la série?
Non, juste... honnêtement, je pense que la... la série a pas besoin d'une VF pour être excellente.
D'accord.
Okay. Mais je vous remercie de votre proposition, monsieur Cube.
Tu ferais passer tes intérêts personnels avant tout pour rencontrer donc.
Caroline Combe, mais complètement.
Très bien.
Mais je crois qu'elle le sait.
Ah.
Non, j'en sais rien. je vais rencontrer. Voilà, Caroline Combe, si tu nous écoutes, n'aie pas peur. Voilà, ne t'inquiétez pas.